France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, comment éviter de se faire arnaquer en amour? Comment repérer les techniques de manipulation amoureuse sur les applications de rencontres notamment? Ce matin, nous ne parlerons pas des fameux brouteurs dont le but est de vous soutirer de l'argent ou des biens matériels en vous faisant croire à une histoire d'amour alors qu'ils habitent à l'autre bout du monde. Nous vous parlerons de ces imposteurs de l'amour en chair et en os qui vous bombardent d'amour, de mots doux, d'attention, qui vous donnent l'illusion d'une évidence, du coup de foudre. Alors que pas du tout, ce sont des imposteurs, manipulateurs qui entretiennent plusieurs histoires à la fois, en mentant sur leur vie, leur identité, leur profession, leur situation familiale ou conjugale. Nous verrons comment repérer ces imposteurs et puis comment remonter la pente quand on a été pris dans leur toile d'araignée. Nos invités vont vous y aider. Et vous, avez-vous déjà été victime d'un imposteur amoureux? Car il s'agit le plus souvent d'hommes, même s'il existe bien sûr des exceptions. Le standard et WhatsApp vous sont ouverts au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Lysiane Larbani.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste indépendante, autrice, vous collaborez notamment à France Inter, nous avons eu la chance de travailler ensemble et vous aviez signé dans Libération, il y a quelques années, l'enquête Lover-Voleur, devenu un podcast sur Louis Média, et vous publiez une passionnante enquête chez Jean-Claude Lattès, Les imposteurs de l'amour, déjouer la manipulation sur les applis de rencontre. Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour.
Vous êtes humoriste, que faire des cons, c'est votre spectacle. Le mardi au Point Virgule à Paris. Et vous êtes également comédienne. On vous a vu en Mère Courage dans Dossier 137 de Dominique Moll. Et vous avez été victime d'un mariage gris, d'un mariage frauduleux. Vous témoignez dans le livre de Lysiane Larbani. Avec nous également Cécilia Como. Bonjour.
Bonjour, Annie.
Experte de cette émission, psychanalyste.
J'ai horreur du mot expert.
Eh bien écoutez, en tout cas, c'est ce que vous êtes.
C'est gentil,
cette émission.
Mais.
Vous êtes psychanalyste, thérapeute, spécialiste du couple et vous êtes également sexologue clinicienne. Oui. Alors, Lysiane Larbani, d'où vient cet intérêt pour les imposteurs de l'amour? Le quotidien Libération dit que votre ton est juste dans votre livre, à rebours des discours parfois malaisants sur ce genre d'histoire, entre fascination non avouée et hébétude face à leur exploit. Expliquez-nous votre intérêt pour ces imposteurs de l'amour.
Je sais pas si j'ai un vrai intérêt pour les imposteurs de l'amour, mais j'ai en tout cas un vrai intérêt pour les femmes qui m'ont raconté toutes ces histoires de manipulation dont elles ont été victimes, comment elles s'en sont sorties, comment elles ont réussi à remonter la pente et tourner la page. J'ai pas de fascination en effet pour ces imposteurs-là, mais par contre, ce qui m'a intéressée, c'est tout le terreau dans lequel ces impostures évoluent, ce système de domination, de genre, enfin tout simplement la société dans laquelle on évolue.
Alors on va parler des imposteurs de l'amour. L'imposture, nous dit le Robert, c'est la tromperie d'un imposteur. Un imposteur, c'est quelqu'un qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges, en usurpant une qualité. Pourquoi n'y a-t-il que des hommes imposteur dans votre livre? J'imagine que des femmes ont aussi abusé de la confiance d'autrui en mentant sur leurs sentiments amoureux. Ce sont surtout des hommes qui sont concernés par l'imposture amoureuse, qui sont des imposteurs.
Alors oui, vous avez raison. Enfin, la manipulation et le mensonge n'est pas l'exclusivité des hommes. Il y a des femmes manipulatrices, des femmes qui font beaucoup de mal dans la sphère du couple et de la famille. Mais l'intérêt pour moi dans ce corpus de le réduire vraiment aux hommes, c'est de raconter aussi dans quel système ces hommes-là vont puiser toutes leurs manipulations, toutes leurs impostures, qui pour le coup sont très genrées, s'inspirent vraiment de cette société dans laquelle on vit, où les femmes peuvent même de façon totalement, même sans le savoir, chercher le prince charmant, ou se définir via le couple et via la maternité. Et c'est en cela que les impostures de ces hommes sont caractérisés sont très genrés.
Alors, ce sont des escrocs sous des airs de prince charmant, des prédateurs qui s'inventent une vie, une identité, une vie de famille. L'un des leitmotifs de votre enquête, Lysiane Larbany, c'est de décortiquer les mécanismes de l'escroquerie. Comment font-ils pour abuser affectivement de femmes qui ne sont ni naïves ni nées de la dernière pluie ?
Merci de dire que ces femmes sont pas naïves et ni nées de la dernière pluie. Sont des femmes qui ont parfois entre 30, 40 ans,
voire plus,
qui ont eu une vie affective avant, qui sont rodées, si je peux dire, au jeu de l'amour. Mais en tout cas, voilà, ces hommes-là, comment ils font ? Ils se rendent indispensables dans le quotidien de ces femmes. En bon français, ce qu'on appelle le love bombing, le fait de
vendre. Le bombardement d'amour.
Voilà, bombarder quelqu'un d'amour, de s'immiscer dans le moindre recoin de sa vie, de son cerveau, de passer son temps à lui écrire des messages, à l'appeler, à lui faire des compliments, à lui faire des cadeaux, à lui proposer, à faire des rendez-vous dans des cadres très romantiques. Moi, les histoires que ces femmes me racontent, c'est toujours très romantique, très soudain, très évident. L'adjectif évident revient souvent. Ce côté un peu comme si l'amour leur tombait un peu dessus. Et c'est ce qui est aussi très attendu dans l'imaginaire collectif avec la littérature. Les comédies romantiques. Et ces hommes-là, ils y arrivent justement parce qu'ils savent jouer de tous ces codes et de toutes ces attentes.
Avec à la clé des femmes abîmées qui subissent d'importantes séquelles psychologiques. Ce sont de véritables traumatismes qu'elles vivent à cause de ces imposteurs de l'amour.
Ce sont des vraies violences. Moi, je plaide pour qu'on prenne en compte ces violences comme étant des violences conjugales, parce que ce sont des femmes qui sont durablement abîmées dans leur psyché. Le mensonge, ça va vraiment les marquer, ça va altérer leur rapport aux autres. Et en fait, on ne sort pas indemne d'une relation où pendant un an, deux ans, vous avez été avec quelqu'un qui vous a menti sur sa vraie identité, son âge.
Sa vie conjugale, sa vie de famille, sa profession. Alors, l'imposture sentimentale, c'est vieux comme le monde, de Zeus en passant par Don Juan ou Valmont dans Les Liaisons dangereuses.
Zeus, je pense que c'est l'imposteur originel. Dans la mythologie, c'est un homme qui va se métamorphoser en toutes sortes de choses pour duper les femmes qu'il convoite. Il va se transformer en taureau, parfois même en femme, pour berner la déesse, la nymphe Calypso. Il va se grimer en Artémis. Et donc, ça montre bien quand même quelque chose, c'est que pour obtenir la femme qu'il veut, il va les cerner, identifier ce qu'elles aiment et se métamorphoser. Bon, lui, il se métamorphose vraiment. Là, ces hommes-là se métamorphosent aussi en quelque sorte en justement adoptant une personnalité en fonction des femmes qu'ils convoitent.
Votre regard, Cécilia Como, est-ce que vous recevez dans votre cabinet de thérapeute des victimes de ces manipulateurs de l'amour, de ces imposteurs de l'amour ?
Bien sûr. Ouais. Avec les applis, effectivement, on voit beaucoup de gens qui démarrent une histoire. Alors c'est vrai, souvent on trompe, et souvent l'histoire rêvée, elle est plus que belle, cette histoire. Et donc il y a une espèce de tourbillon, d'emportement, où l'émotion prend vraiment occupe absolument tout et laisse la raison, ce qui est le propre de l'amour. Hein. Sauf que là, effectivement, c'est fois mille, et je pense que c'est fois mille à cause de la temporalité. C'est la vitesse et, comme disait Lysiane, ce love bombing, la vitesse et l'intensité font perdre très vite la raison. Effectivement, je vois des femmes qui sont, je pense que le terme, c'est déboussolées. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment perdu leur boussole interne. Elles ne savent plus repérer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et puis, il y a quelque chose qui est durablement abîmé. C'est la confiance. Comment se mouvoir au milieu des autres sans craindre, finalement, d'être à nouveau manipulé.
C'est vraiment le bon mot. C'est ce que j'ai ressenti en lisant votre enquête, Lysiane Larbany. Ce sont des femmes qui ont été déboussolées.
Oui, qui ont plus du tout
dans leur fondement, dans leurs repères.
qui n'ont plus tellement la notion de ce qui est vrai ou ce qui est faux, parce qu'on on leur fait croire tellement de choses que finalement, voilà, quelle est la réalité dans tout cela, et où trouver une vérité. Et c'est que par cette recherche et cette vérité qu'elles vont pouvoir réussir à passer à autre chose.
En 2022, vous aviez donc enquêté sur un arnaqueur de Tinder, la célèbre application de rencontre, enquête sur un dénommé Lesti. Alors c'est un bel homme, séduisant. Alors au début de votre livre, nous faisons la connaissance de Marion, 35 ans, elle travaille dans la communication. Elle rencontre Lesti sur l'appli Tinder, ça match. Ils se plaisent et continuent leurs échanges sur WhatsApp. Alors au début, il est plutôt bienveillant, drôle, à l'écoute, il est même fusionnel ce Lesti.
Oui, très présent.
C'est vraiment le futur père idéal.
Oui, quelqu'un de très présent, très prévenant. C'est surtout quelque chose qui revient chez Lesti. C'est quelqu'un qui, voilà, est toujours très concerné. C'est pour savoir si ses femmes vont bien. Il prend des nouvelles de leurs amis. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui vraiment s'intéresse.
Vous parlez au pluriel parce qu'il avait plusieurs relations.
Ah oui.
En même temps.
Oui, mais il cumule des dizaines de relations simultanées, c'est quand même quelque chose.
Mais prenons le cas de Marion, qu'est-ce qui se passe au bout d'un mois de relation?
Marion, elle sent que Lesti devient un peu distant, parce que c'est un homme qui est toujours, il lui arrive toujours des bizarreries, des accidents, des maladies.
Tout est inventé.
Tout est absolument faux, en effet. Il a toujours des bonnes excuses pour pas venir, et puis en fait, Marion tombe enceinte de Lesti. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas, enfin voilà, c'est une grossesse qui n'est pas désirée, c'est un chamboulement. Mais d'un autre côté, Marion, elle a 35 ans, donc elle se pose aussi la question de savoir que faire. Et lorsqu'elle en parle à Lesti, Lesti devient tout de suite très fermée, très froid. Elle lui dit mais c'est hors de question que tu le gardes, tu vas avorter, on n'en parle plus. Et d'un coup, elle se rend compte que l'homme qu'elle fréquente depuis voilà, quelques semaines, un mois, un peu plus d'un mois, est totalement différent de ce qu'elle pensait être.
Et là, c'est le retour brutal à la réalité pour Marion. Elle se rend compte, elle apprend que ce Lesti est marié, père de 3 enfants, qu'il entretient donc plusieurs histoires à la fois, sous plusieurs identités, plusieurs noms. Il s'appelle Calvin, Tiane, Lode, David, Lenny. Et là, certaines victimes lui ont fait des virements et des autorisations de prélèvement bancaire. Et puis certaines femmes ont contracté des infections sexuellement transmissibles.
Oui, parce que Lesti se place dans une position où il dit qu'il est prêt à s'engager, faire des enfants, fonder une famille. Et de fait, le préservatif, malheureusement, est vite enlevé dans le cadre de ses relations sexuelles. Mais aussi parce que ces femmes se sentent parfaitement en confiance et parce qu'il leur présente des tests IST, hein, sérologiques, qui sont en vérité falsifiés. Le laboratoire auprès duquel il a falsifié les tests a porté plainte. D'ailleurs, l'instruction est toujours en cours. Et donc, ces femmes-là se disent, bon, bah, c'est OK. Et en fait, il fait ça avec de nombreuses femmes. Donc, il se met en danger lui, mais il met en danger les autres femmes.
Lesti sera mise en examen pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux. Il est évidemment présumé innocent. Des histoires similaires, il y en a beaucoup dans votre livre. Exemple, Alexandra Colombo. vous avez eu affaire à un imposteur de l'amour. Un soir, vous rencontrez chez une amie un beau jeune homme, 1m90.
Ouais. Alors que je fais 1m50, déjà, ça aurait dû m'alerter.
Il est sud-américain. Le soir même, vous vous embrassez,
oui.
Et on peut parler d'un coup de foudre.
Ah oui. Ah bah moi, alors l'histoire du prince charmant, le voilà, bim bam, Raphaël, magnifique, métisse, avec cet accent incroyable. Bon bah moi j'étais complètement sous le charme. Je sortais quelques mois avant d'une grande et longue histoire. Voilà, moi je suis plutôt quelqu'un de... qui aime les histoires longues, qui aime s'engager, qui aime partager. Et puis, très vite, avec Raphaël, ça devient extrêmement fusionnel.
C'était une évidence. On va revenir sur ce mot très important. C'était une évidence.
Oui, et puis on se parle. Et je lui demande ce qu'il fait en France. Il me dit, je suis là parce que je fais de la psycho et je viens finir ma thèse. Moi, j'étais là, oh, tu fais de la psycho, mais moi aussi, j'ai fait psycho. Ah, incroyable. Et j'aime l'art. J'étais là, oh, bah, incroyable, parce que moi, je suis comédienne, je vais être trop comédienne. Nana. Voilà, tout, la totale. Et puis
vous allez nous raconter la suite après le disque.
Je vais vous raconter la suite après le disque.
Quel sens du teasing. Allez, si vous avez été victime d'un imposteur de l'amour, n'hésitez pas à nous contacter au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. On se retrouve juste après avoir écouté Laurent Voulzy, Belle Île en Mer, Marie Galante, une sublime chanson sortie en 1985, 10h19 sur France Inter.
Belle.
Du bien à 10h22, lourd Laurent Voulzy, Belle Île en Mer, Marie Galante.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse sur France Inter.
Comment ne pas se faire arnaquer en amour? Comment éviter les pièges des imposteurs de l'amour? C'est le thème ce matin dans Grand Main Vous Fasse avec l'autrice Lysiane Larbani qui publie Les imposteurs de l'amour, avec la sexologue clinicienne et psychanalyste et experte de cette émission, Cécilia Coumeau. Je vous embête, Cécilia.
Merci.
Et avec la comédienne Sandra Colombo, victime d'un arnaqueur de l'amour. Lysiane Larbani, toutes ces histoires d'imposture, pardon?
La fin de l'histoire?
Ah non, mais on va la voir, la fin de l'histoire.
Ouais.
Attendez, Cécilia Coumeau, on va la voir à la fin de l'histoire avec Sandra Colombo, victime donc d'un imposteur de l'amour. Pour vous, toutes ces histoires d'imposture, ce ne sont pas des faits divers. Vous parlez même de phénomènes systémiques. Expliquez-nous.
Oui, parce que quand on parle de faits divers, ce serait une anomalie de la société, là où ces impostures amoureuses ne sont pas des anomalies, elles sont ancrées dans notre société, dans un système où il y a un genre dominant, les hommes, et un genre dominé, les femmes. C'est pas un propos féministe ou misandre, hein, c'est les faits. Et du coup, les reléguer à des rangs de faits divers, ce serait dire qu'ils sont en marge de quelque chose, que finalement ça ne pourrait pas nous arriver, alors que c'est un sujet qui voilà, l'imposture amoureuse, c'est quelque chose qui est très ancré, dont on peut être toutes les victimes.
Cécilia Coumeau.
Oui, je pense qu'il y a une... Alors, on pourra en discuter. Il y a deux façons de regarder ça. Il y a le regard anthropologique qui, effectivement, va avancer la valence différentielle des sexes et le fait que ça s'inscrit dans des structures collectives symboliques. Et puis, il y a... le problème, c'est qu'il y a un point aveugle dans l'angle anthropologique, et Dieu sait si j'aime beaucoup Françoise Héritier, mais ce point aveugle, c'est que tous les hommes qui, pourtant, sont biberonnés dans la même société ne fonctionnent pas de la même façon. Et je parle même d'hommes qui ont 60, 70 ans et qui n'ont pas encore ou n'ont pas pu être déconstruits par leurs parents. Voilà, ils sont pourtant élevés dans cette société et vont fonctionner autrement. Donc je pense que oui, ce que dit Lysiane est tout à fait juste. Il y a quand même effectivement, d'abord c'est beaucoup plus des hommes que des femmes, donc ça c'est effectivement, c'est quand même même une question, mais je pense que le point qui va se rajouter est nécessaire, c'est le point psychologique, pour dire que il y a des individus qui sont dans une faille narcissique et qui cherchent par le biais du contrôle d'autrui à une réparation narcissique. On a des gens, des hommes, qui sont dans une toute puissance et certains qui ont des traits clairement pervers. Et donc voilà, c'est un peu l'entrelacement de ces deux regards, je pense, qui permet de comprendre pourquoi ce sont essentiellement des hommes, mais aussi pourquoi n'importe quelle femme, et ça on rediscutera, je pense, du mécanisme, peut être victime d'individus comme ça.
Sandra Colombo, vous avez donc été victime d'un imposteur de l'amour, donc ce beau jeune homme d'1m90, sud-américain, il s'appelle Raphaël, coup de foudre, vous embrassez le soir même où vous vous rencontrez, c'est un véritable coup de foudre à la fois amoureux et physique. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Ensuite, ça continue, hein. La vie continue, c'est super. Il est là tout le temps, il habite chez moi. Heureusement, j'ai eu la bonne idée de garder mon appartement.
Il est fauché.
Lui, complètement fauché. Moi, je travaillais dans la pub à cette époque-là. Donc, c'est moi qui payais tout. Pour le coup, les violences économiques arrivent assez vite, même si moi, je ne m'en suis pas du tout rendu compte. Mais en fait, je travaillais. Je lui faisais la cuisine parce qu'évidemment, il adorait manger tout ce qui est la nourriture française. Vas-y, que je cuisinais des blanquettes... du bœuf bourguignon, des trucs comme ça, voilà.
Ce sont des actes d'amour.
Complètement, mais ce n'était jamais assez.
Et à partir de quel moment il y a un point de bascule, un changement d'attitude, et à quel moment vous vous apercevez qu'il vous a menti ?
Très tard, je suis lente à la détente, Ali. Très tard, parce qu'en fait, donc, il m'a bien accrochée dans ses filets. Et puis, un jour, après les vacances que j'ai payées, évidemment, il me dit, dernier jour des vacances, il me dit, tu sais, ma chérie, y a deux options. Soit je repars au Venezuela, soit on se marie parce que je n'ai pas de papier. Alors moi, je tombe un peu des nues et je lui dis... Ah bah tu vas rentrer chez toi, parce que moi, le mariage, c'est hyper important pour moi. Mes parents sont mariés depuis 50 ans. Pour moi, c'est un vrai engagement. Et pardon, mais on se marie pas pour des papiers. Très bien, me dit-il. Il part... Moi, au bout d'une semaine, je grattais à sa porte. Non, s'il te plaît, pardon, je ne peux pas vivre sans toi. Voilà, donc je ne peux pas vivre sans lui. On se marie. C'est après qu'en fait, parce que pendant tout ce temps-là, il faut aussi dire qu'il était très dépressif et qu'il me faisait croire qu'il partait marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle parce que, comme il était un poète maudit, ça l'aidait. Et en fait, oui, il partait très probablement marcher, mais pas du tout à Compostelle, et il marchait avec quelqu'un. Et je m'en suis rendu compte.
Il avait donc une double vie.
Il avait une double vie totalement installée en Espagne, avec une femme qu'il m'a dit après aimer pour de vrai. C'était chouette.
On va revenir tout à l'heure sur les conséquences psychologiques de cette histoire et nous accueillons Carole. Bonjour Carole, bienvenue.
Bonjour Ali.
Bonjour. D'où appelez-vous Carole ?
J'appelle de Toulouse.
Vous avez bien raison. c'est ma ville d'origine, comme vous le savez. Carole, plus sérieusement, vous avez été victime d'un imposteur qui menait non pas une double vie, mais...
Au minimum une triple vie, mais on a quand même des doutes sur un peu plus.
Ouais. Racontez-nous un peu votre histoire, Carole.
Alors bon, déjà, selon lui, c'est lui la victime, hein. c'est pas moi, évidemment. En fait, j'avais une relation officielle avec cet homme-là pendant un an et demi. On s'est séparés et on a continué à se fréquenter. Moi, je pensais qu'il était célibataire et il me disait que j'étais spéciale pour lui, que j'étais Carole et que c'était pas n'importe quoi, notre relation, tout ça, tout ça. Et puis un jour, j'ai été contactée après le confinement, août 2020, par une femme via Facebook qui m'a demandé un contact. Et moi, j'avais des doutes, je savais pas qui elle était. Le seul contact qu'on avait en commun, c'était cet homme-là. Donc j'ai demandé à lui des explications. Il a un peu botté en touche. Il m'a dit, c'est une folle, je la fréquente depuis 8 mois, mais il n'y a rien de sérieux. Bon, écoute, on va faire un truc. Je te demande quand est-ce qu'on a couché ensemble la dernière fois. Tu me dis que ça fait 2 ans et demi et le problème est réglé. Bon, là, j'ai eu des doutes parce qu'entre 8 mois et 2 ans et demi, je voyais pas le rapport. Et en fait, j'ai fini par lui dire, non, écoute, je vais la contacter, je vais me débrouiller avec elle. Et donc, j'ai eu un contact avec elle qui m'a dit... voilà, j'avais des doutes sur votre relation à tous les deux. J'ai débarqué un samedi matin chez lui, pensant te trouver dans son salon. Voilà. Et en fait, elle est arrivée chez lui, elle a sonné. Il a ouvert et il était avec une troisième femme, mmh. avec qui il sortait depuis 2 ans et demi.
D'accord. Lysiane Larbani.
Ben c'est, enfin en tout cas, ce qui est intéressant dans l'histoire de Carole, c'est que l'échange entre les femmes est crucial pour pouvoir justement découvrir la vérité, parce que de ces hommes-là, une chose est sûre, c'est qu'on n'obtient jamais la vérité.
Restez avec nous, Carole. J'aimerais aborder un sujet assez important, parce que dans votre livre, il y a un mot qui revient, c'est l'évidence. Les victimes de ces imposteurs de l'amour ressentent une forme d'évidence. L'évidence, c'est un adjectif qui revient dans leur bouche. Alors l'évidence, nous dit le petit Robert, c'est le caractère de ceux qui s'imposent à l'esprit avec une telle force qu'on n'a besoin d'aucune autre preuve pour en connaître la vérité, la réalité. Une évidence, une belle connexion, c'est ce que vous dit Hélène quand elle rencontre Maddy lors d'une séance de danse de couple. Maddy qui est également un imposteur de amoureux. Sur ce mot d'évidence qui est vraiment très important dans ce qui nous intéresse ce matin.
Mais l'évidence, c'est quelque chose qui est plaisant, c'est quelque chose qui est rassurant, c'est un sentiment très agréable de dire que les choses finalement sont écrites et qu'on n'a plus qu'à se laisser porter, se laisser aller à l'amour. Et ces hommes voilà, appuient sur ce caractère de l'évidence, c'est quelque chose qu'ils disent tout le temps. Moi, je sais que Lesti, il appelle certaines de ses victimes mon évidence. voilà, c'était évident qu'on finirait ensemble, tout est tellement évident entre nous, et ça fait écho à toutes ces scènes de ce que Roland Barthes appelle le ravissement, hein, le coup de foudre, la plénitude.
Dans le fragment d'un discours amoureux.
Oui, dans le fragment d'un discours amoureux, et voilà, et cette évidence, en fait, je pense que l'amour n'a rien d'évident.
Mais nous sommes conditionnés, Cécilia Como, pour que la rencontre amoureuse apparaisse comme une évidence.
En tous les cas, c'est ce que nous recherchons. Alors, c'est très intéressant que ce soit effectivement en relief, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la préférence et sur le fait d'être unique dans mon premier livre pour comprendre. Alors, c'était pas pour comprendre les imposteurs, mais pour comprendre pourquoi la monogamie. Pourquoi est-ce que la monogamie est plus choisie que d'autres forme, la polygamie par exemple, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de pays dans le monde qui autorisent la polygamie, mais même dans ces pays-là, elle est peu utilisée. Et en fait, l'évidence, c'est effectivement quelque chose qui revient, alors d'abord c'est quelque chose de très romantique, mais qui vient appuyer, je pense, sur deux choses principales, à savoir être la préférence et être unique. Et quand Lysiane dit, Lesti dit, tu es mon évidence, bon déjà il y a le mon, hein, adjectif possessif, qui renforce en fait l'idée que tu es la seule. Et comment faire croire à quelqu'un qu'il n'y a personne d'autre, alors même qu'il y a quelqu'un d'autre, eh bien en renforçant ce désir qui effectivement, je pense, est tout à fait naturel pour le coup et pas culturel, de vouloir être unique et préféré dans les yeux de l'autre. Et l'évidence vient charrie en fait exactement ça, et là c'est l'éblouissement.
Carole, vous avez ressenti ça, cette évidence à l'égard de cet homme qui a été un imposteur
Pas du tout.
Ah, d'accord.
Pas du tout, en fait je sortais de 5 ans de célibat quand on s'est rencontrés, et il n'était pas beau comme votre Vénézuélien, il ressemble à rien, et toutes mes copines me disent, mais comment t'as pu te faire avoir par un mec pareil qui est moche, qui ressemble à rien, quoi.
Oui, oui, alors Cécilia. Ça c'est drôle, Carole, parce que les ex sont souvent moches.
Non, mais il était déjà moche quand on était ensemble, hein.
Oui, mais ça ne vous a pas arrêté.
En tout cas, concernant cette évidence que nous évoquons, vous êtes une exception, Carole. En revanche, vous, Sandra, votre Vénézuélien, Raphaël, c'était vraiment une évidence.
Ah bah oui, et puis alors c'est vraiment le truc du prince charmant, ouais. C'est-à-dire que d'un coup on se dit, oh, mais cet homme il comble tout ce que j'ai toujours voulu en fait. Ouais. Oui, il me dit qu'en effet je suis unique, et puis alors vas-y, moi, c'était vraiment un poisson nommé Vanda, il avait un accent, moi il me lisait des trucs, j'étais là, ah mon Dieu, j'en pouvais plus. En fait vraiment, il y avait mais tout, et puis il y a ce truc unique pour le coup d'avoir une relation unique avec quelqu'un qui n'est pas comme tous les autres. Et moi, j'en voulais beaucoup à mes copines qui me disaient « Sandra, fais attention, c'est bizarre, c'est machin ». J'étais là « Ah ouais, non mais en fait, vous êtes trop jalouse ». Mais c'était dingue, j'étais comme amputée d'une partie de mon cerveau. Il prenait toute la place, en fait.
Merci beaucoup, Carole, de nous avoir appelés. Est-ce qu'on peut faire quand même un distinguo entre ceux qui vivent une double vie, où ces hommes peuvent être amoureux des deux femmes avec lesquelles ils partagent des vies séparées, et les imposteurs de l'amour qui mentent sur leurs sentiments, qui multiplient les relations en mimant l'amour, en mimant le sentiment amoureux. Lisanne Larbany.
Oui, parce qu'il y a... Enfin, j'ose espérer que les hommes qui sont polyamoureux, comme on dit maintenant, sont honnêtes vis-à-vis de leurs différentes partenaires, différentes partenaires. La différence avec les imposteurs amoureux, c'est qu'ils mentent totalement sur leurs intentions.
Sur leurs sentiments.
Sur leurs sentiments et leurs intentions.
Les imposteurs de l'amour savent jouer à merveille avec notre fantasme du coup de foudre. Et c'est vrai que de nombreuses fictions, mythes, légendes, contes de fées nous conditionnent à cette quête du coup de foudre.
Oui, toutes les femmes victimes que j'ai rencontrées dans le cadre de ce livre sont toutes différentes. Je pense que leur seul point commun, c'est d'avoir grandi dans cette même société où elles ont vu les mêmes films, elles ont sans doute petites rêvé d'être une princesse, elles ont lu les mêmes livres. Donc ça, c'est un vrai conditionnement qui nous constitue en tant que femme hétérosexuelle. C'est le coup de foudre, le prince charmant, l'amour heureux toujours, ils se marièrent, des enfants, etc.
Lisanne Larbany, ces imposteurs de l'amour savent mettre en scène leur preuve d'engagement. Ils mettent en scène leur engagement.
Oui, ils prévoient ils font semblant d'avoir des projets. Ils s'investissent dans les vies de famille. C'est surtout le cas auprès des femmes qui ont déjà des enfants. Ça devient des beaux-pères parfaits, à leur juste place, très gentils, très investis. Ils viennent aux spectacles de fin d'année, aux anniversaires. Ils aident des copains de leur compagne à déménager. Ils rencontrent les belles familles. Il y a vraiment tout un investissement.
Là, c'est une question qu'on peut se poser à ce stade de l'émission. Mais que recherchent les imposteurs de l'amour? Est-ce que c'est dans le but d'une arnaque financière, pour soutirer des biens matériels? Au terme de votre enquête, que recherchent ces imposteurs de l'amour?
Moi, je pense, c'est un parti pris, mais je pense que ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Cécilia Como parlait de perversion, de sentiment de volonté de dominer aussi. Hein. Je pense que c'est dans cela que s'inscrit l'imposture amoureuse. C'est parce qu'ils le font, parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils en ont le droit, parce que la justice n'est pas pour leur rendez-vous sur les questions de ces impostures. Et qu'est-ce qu'ils recherchent? Je pense qu'ils recherchent aussi l'envie peut-être de se refléter comme des hommes bien dans le regard de ces femmes. Je sais pas, mais je pense qu'il y a une histoire quand même de pouvoir et de domination. Peut-être qu'ils sont contents, ils jouissent peut-être de berner plein de femmes.
Et ils arrivent à les berner notamment en montrant ou en mettant en scène leurs faiblesses. Ils sont capables de parler de leurs émotions, de se confier sur leur traumatisme.
Et
c'est vrai que se confier, c'est une marque de confiance envers l'autre. Hein.
Se confier, dans l'imaginaire collectif, les hommes, on a tendance à croire ce qui n'est pas vraiment vrai, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Cécilia, mais que les hommes ont du mal à dire leurs émotions, à se confier. Donc du coup, quand vous avez un homme qui s'épanche beaucoup sur ses sentiments, qui parle de ses traumas très rapidement, qui dit qu'il prend des antidépresseurs, qu'il va voir un psychologue, ce genre de choses, on n'a tellement pas l'habitude d'entendre ce discours de la part des hommes que ça a presque c'est un côté séduisant.
Et vous écrivez, Lisanne Larbany, que ces imposteurs sont semblables à des araignées. Ces hommes tissent une vaste toile faite de conversations profondes, de flatteries, pour mieux capturer et encercler leurs victimes.
Oui, ils font de la confidence, ils sont dans la séduction dans le même temps, c'est un peu les hommes parfaits, quoi. Ils sont sensibles, ils sont virils, j'en sais rien, mais c'est ce qui fonctionne.
C'est peut-être ça, finalement, un des signaux qu'il faut redouter, c'est qu'ils sont trop parfaits, en fait, et que cette perfection est absolument suspecte dans ce qui est recherché aussi.
La perfection est suspecte.
Ah oui, la perfection est suspecte, elle nous séduit, comme décrit Lysiane, le beau-père parfait, le gendre parfait, tout le monde le trouve fantastique. C'est suspect, nous sommes défaillants, nous avons des aspérités, on n'est pas obligé d'être les plus sympas, on n'a pas toujours le comportement qu'il faut au moment où il faut avec les amis, les enfants. Donc je me dis d'une certaine façon, trop parfait, il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors moi, Raphaël n'était pas du tout parfait, mais il y a le syndrome de l'infirmière. Ah ben moi je me suis dit, je vais le sauver. Mais évidemment, je vais le sauver grâce à moi. Ah là là, bah déjà, il va avoir des papiers, parce qu'il y avait ça pour moi. Hein. Vous demandiez quel était l'intérêt. Ah bah lui, l'intérêt, c'était d'avoir sa nationalité française. Alors, je rassure ceux qui ont besoin d'être rassurés sur ce point, ça n'est pas arrivé. Voilà. Parce qu'il y a tout, c'est pas du tout automatique, contrairement à ce qu'on croit. Il y a des démarches, c'est très long et tout ça, donc voilà, ça n'est pas arrivé. Mais lui, c'était son goal hein, absolu.
Goal, c'est quoi ?
Bah, son but, pardon. Et on dirait Jean-Claude Van Damme, je parle
parce
en anglais.
Il y a la médiatrice Emmanuel Xavier qui nous écoute et les auditeurs, on n'aime pas les anglicismes.
Vous avez raison. Et en fait, moi, vraiment, j'ai cru que j'allais le sauver. En plus, il était très dépressif, il me le disait. Donc je me disais, ah, mais grâce à moi, il va mieux. Et puis je lui fais des blanquettes de veau, donc c'est quand même chouette.
Mais dans la perfection, Sandra, il y a la perfection de la réponse à nos attentes. Ce que vous attendiez d'un homme. Il était parfait dans ses réponses. Et c'est là où, peut-être, effectivement, parfois, ça pourrait être suspect. Bon, après, c'est tellement merveilleux, quelqu'un qui répond pile poil à nos attentes amoureuses, que c'est compliqué de s'en dépêtrer.
Vos histoires, Lysiane Larbany, débutent sur une appli de rencontre, bien souvent, et les applis sont un terrain de jeu où ces imposteurs peuvent constamment se réinventer.
Ah oui, et ces quartiers libres, sur les applis de rencontre, on peut vraiment tout inventer, le prénom, l'âge, les origines, le métier, la situation familiale. Et en fait, c'est des lieux qui sont très fréquentés. Hein. Un sondage IFOP de 2021 disait qu'un Français sur trois a fréquenté ou fréquente une de ces applis. Donc, ça fait vraiment partie de nos usages contemporains quand on est célibataire. Et donc, ces hommes-là savent qu'il y a forcément plein de femmes célibataires à tromper et ils sont tout à fait... Enfin, ils sont tranquilles pour s'inventer toute une vie.
Et vous vous demandez si ces applis de rencontre incitent à baisser le niveau de vigilance naturelle que ces femmes auraient face à un inconnu dans la rue. Et d'ailleurs, pourquoi ces imposteurs parviennent à faire baisser la garde à leurs victimes ?
En fait, l'usage des applis est assez paradoxal, je trouve, parce que il y a une méfiance quand même dans le fait d'échanger avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais les applis nous offrent un espèce de cadre sécurisant où on va avoir des photos. Alors maintenant, il y a même des applications où on peut entendre des messages vocaux, des questionnaires pré-remplis, il y a tout un tas de moyens mis en place pour nous faire croire que les applis sont des lieux de rencontres sécurisés. Or, il n'y a vraiment aucune façon d'être certain de ce que l'on nous dit. Donc c'est assez paradoxal l'usage des applis. Et puis surtout, la relation épistolaire qui est mise en place avant la rencontre permet aussi de cerner, permet à ces hommes de cerner ces femmes en leur posant plein de questions. Donc du coup, ils ont déjà une idée préétablie de la femme qu'ils ont en face d'eux et la femme aussi, sauf que dans la conversation, il y a un menteur. Quoi.
Et nous accueillons Sabine. Bonjour Sabine, bienvenue.
Oui, bienvenue. Écoutez, monsieur, il n'y a pas que les sites de rencontre.
Hein. Oui.
Quand on va danser et qu'on donne son numéro de téléphone ou son adresse à quelqu'un...
Vous avez bien raison, Sabine.
C'est hyper dangereux parce qu'on donne comme ça ses coordonnées à quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, qui danse de façon formidable, ça c'est très bien. Mais en qui... Alors ma fille... Ça a été son premier amour. Hein. Mmh. Elle avait 18 ans. On est allé danser à la Huchette. Moi, j'étais sa maman. Donc, c'était visible que c'était la mère et la fille. Et elle a été invitée par quelqu'un qui devait à peu près avoir la quarantaine et qui l'a subjuguée. Alors, moi, je me demande vraiment pourquoi il m'invite pas, moi. Bon. Et il voulait initier à l'amour ma fille. C'est-à-dire qu'il voulait des jeunes filles vierges. C'était son idée fixe. Je l'ai su après, hein. Voilà.
Oui.
Il voulait à tout prix initier à l'amour des jeunes filles vierges. C'était son but.
Et cet homme, vous nous l'avez dit au standard, fréquentait Plusieurs femmes, c'est ça?
Bah, en même temps, cet homme, il venait. Donc, on l'a rencontré à la Huchette, c'est-à-dire qu'elle l'a rencontré à la Huchette devant moi, hein, mm-hmm. en dansant du jazz. Ils se sont plu parce qu'elle étudiait les lettres classiques, et lui, il était chirurgien, il opérait les yeux, hein, donc il redonnait la vue à des personnes. Donc, il était à l'affût aussi de jeunes filles cultivées. Hein, voilà. Donc, moi, je l'ai vu apparaître dans ma vie tous les mercredis soirs. Il venait chercher ma fille avec les dossiers de ses malades qu'il allait opérer le lendemain, hein, très sérieux. Et il prenait ma fille sur ses genoux devant moi. Il avait l'air très amoureux devant moi et ils repartaient tous les deux. Donc, et ça a eu lieu tous les mercredis pendant à peu près 6 mois.
Et ensuite ?
Eh bien ensuite, elle a été invitée à son anniversaire. Et tout d'un coup, elle est arrivée à son adresse. Il y a une jeune fille qui connaissait parfaitement l'appartement qui lui a ouvert. Et ensuite, il y avait une dizaine d'autres jeunes filles qui étaient là. Et en fait, il fréquentait une jeune fille différente tous les soirs. Hein, voilà. D'accord. Pour l'initier à l'amour, puisque c'était sa volonté. Donc, il devait une bierge au départ. Hein. Et puis, et là, il avait fait une fête pour son anniversaire pour les présenter à ses copains. Parce qu'il avait beaucoup de copains qui étaient célibataires et qui venaient à peu près la même vie que lui. Hein.
Est-ce qu'il était vraiment chirurgien? Est-ce qu'il avait menti sur sa profession?
Non, il l'a invité un jour sur un... Il a fait un... D'ailleurs, il était très radoc. Oui. Il avait invité ma fille un jour sur un discours qu'il a fait sur le glaucome.
D'accord.
Il opérait à l'hôpital Saint-Joseph, hein, ça c'était clair. Et il l'a invité pour qu'elle soit pleine d'admiration envers lui lorsqu'il a fait un grand discours sur le glaucome à des gens spécialisés.
Merci beaucoup Sabine. En tout cas, ces imposteurs de l'amour visiblement sévissaient avant l'avènement des applis de rencontre. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va essayer de décoder quelques techniques de manipulation de ces imposteurs de l'amour. On se retrouve juste après avoir écouté Hayley Williams. Qui interprète Kill Me, 10h47 sur Inter.
Eldest daughters never miss their chances to learn the hardest lessons again and again. Carrying my mother's torment, I think I'm where the bloodline ends. I'm
interpréter Kill Me.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Comment ne pas se faire arnaquer en amour? Comment éviter les pièges des imposteurs de l'amour? Avec l'autrice Lysiane Larbani, avec la sexologue clinicienne et psychanalyste Cécilia Como et avec la comédienne Sandra Colombo qui a été victime d'un imposteur de l'amour. Alors Lysiane Larbani, j'aimerais qu'on s'intéresse à quelques techniques de manipulation de ces imposteurs. Tout d'abord, le love bombing. En bon français, il s'agit d'un bombardement amoureux. C'est quoi? C'est le fait d'inonder quelqu'un d'amour, de compliments, d'attention au début d'une relation. Mais c'est quoi la différence avec, je sais pas, le fait de déborder d'amour au début d'une relation. C'est normal au début quand on rencontre quelqu'un, on lui envoie plein de mots doux, etc. C'est quoi cette technique de manipulation, le love bombing?
Mais c'est que du coup, la différence, vous venez de le dire, c'est que dans le love bombing, il y a une intention de manipuler. C'est le fait d'être omniprésent dans la vie de quelqu'un, mais à des fins manipulatoires.
Mais comment on peut savoir qu'il s'agit de love bombing avec rien derrière, avec... Est-ce qu'il y a des moyens, Cécilia Como?
Ben, je me dis que on est sensible aux compliments, on va être beaucoup plus impacté. Après, peut-être qu'il faut se mettre en garde les flagorneurs. Quand on vous dit que vous êtes extraordinaire, fantastique, que personne ne vous arrive à la cheville, que je n'ai jamais connu ça... Bon, si vous avez un peu de modestie, vous pouvez aussi vous dire ouais, vraiment, je suis la seule. Voilà, c'est aussi un repère de se dire c'est peut-être un peu beaucoup.
Lisiane Larbani, toutes les victimes que vous racontez dans votre livre ont été victimes de ce love bombing, de ce tapis de bombe d'amour.
Oui, et en plus, avec tous les compliments dont on vient de parler, il y a aussi les actes d'engagement, les projets aussi que ces personnes-là vont aller inventer. Donc, c'est tout un ensemble, ce love bombing, ça regroupe voilà, les compliments, les projets, toutes ces choses. Et toutes les femmes que j'ai rencontrées dans le cadre du livre ont été les victimes de ce love bombing.
Sandra Colombo.
Alors, moi, je dirais que pour se rendre compte, il faut se poser un petit peu. Parce que moi, a posteriori, je me suis dit... Mais comment j'ai pas vu ça? Alors évidemment, c'est facile à dire après. Mais il y a quelque chose quand même qui... Il y a des petits bidules qui font que ça, c'est pas vraiment... Il y a quelque chose... En tout cas, si on écoute vraiment ce que ça nous fait à l'intérieur, il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne. Et ça, c'est très important de se dire, parce qu'on peut être très aveuglé, parce qu'on peut être en détresse amoureuse aussi. Il y a des gens qui ont vraiment besoin qu'on les aime et qui cherchent une relation à tout prix. Et le à tout prix arrive avec beaucoup de compliments, beaucoup de choses comme ça. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose de... bizarre, quoi, qu'on peut s'écouter.
Mais Cécilia, le problème, c'est qu'on est tous soumis à ce qu'on appelle un biais de dissonance cognitive. Ah bah oui. Et pour rendre les choses cohérentes, on va minimiser ce que vous aviez perçu, c'est-à-dire les petites lumières rouges, les alertes, et on va maximiser tout ce qui est positif.
Ah bah oui. Ouais. Après ce bombardement d'amour, ce love bombing, il y a la froideur, le rejet, voire la disparition pure et simple. Après ce bombardement d'amour toxique, il peut y avoir... encore un anglicisme, le ghosting, qui veut dire que la personne cesse soudainement de répondre à vos messages, elle disparaît.
Fait le fantôme, disparaît, il ne donne plus de signe de vie. Et le ghosting, c'est vraiment un comportement abject qui plonge les personnes qui en sont victimes dans le désarroi, l'incompréhension.
Hein.
Ça peut vraiment traumatiser des gens, oui. Parce que du jour au lendemain, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez plus de nouvelles, pas d'explication. Vous pouvez juste essayer de deviner ce qui s'est passé, mais en fait, vous n'aurez jamais accès à la vérité.
Encore un anglicisme, le gaslighting. C'est quoi exactement le gaslighting? Qui est aussi une technique de manipulation, c'est pousser l'autre à douter de quoi, de sa mémoire, de sa perception, de sa santé mentale, afin de prendre le contrôle, c'est ça?
Oui, en fait, le gaslighting, c'est une technique de manipulation qui consiste à faire douter la personne en face de ses propres perceptions, de ce qu'est la vérité. En fait, on le dit de façon générale, faire passer la personne en face pour fou ou pour folle. On va lui faire douter de sa mémoire. On va lui dire, par exemple, je sais pas, dans le livre, je parle d'un homme qui dit qu'il va à la salle de sport, et puis quand il rentre, il dit, oh, c'était super ma séance de paddle, et sa compagne dit, mais tu n'étais pas à la salle de sport, et lui dit, oh, mais tu m'écoutes jamais, à quoi ça sert que je te raconte des choses? Et en fait, ces techniques de gaslighting, quand c'est quotidien et répété, les personnes qui en sont victimes ne savent vraiment plus ce qui est vrai et ce qui est faux, et ont vraiment l'impression de devenir dingue.
Cécilia Como, comment repérer l'imposture amoureuse, la manipulation amoureuse? Alors, est-ce que vous avez des...
Oui, je vais tenter de ne pas être trop prétentieuse. Repérer, c'est compliqué quand le cerveau est émotionnellement complètement en ébullition. Mais je pense qu'on a un petit peu dit, quand le lien va très vite et trop vite sur le plan émotionnel, c'est quand même le premier signal. Et c'est pas tant la vitesse, pour reprendre ce que vous disiez, qui pose problème, c'est que la relation relation a pas eu le temps de se confronter à la réalité du couple, parce qu'on n'est pas un couple réel en l'espace de 3 mois. La deuxième chose, c'est que le discours est séduisant, mais difficilement vérifiable, et donc on a des zones de flou dans le parcours de vie, on a des incohérences qui sont pas toujours explicables, et on a des empêchements récurrents à se voir, à faire des choses. La troisième chose, c'est que vos émotions, les émotions de la victime, deviennent un problème en soi. C'est-à-dire que quand elle commence à dire qu'il y a des choses qui lui conviennent pas, eh ben, on va lui dire qu'elle est trop exigeante, qu'elle est trop inquiète, qu'elle est trop sensible, qu'elle est pas cool. La quatrième chose, c'est que souvent, les victimes se mettent à justifier ce qui leur fait mal, et ça, c'est un signe assez fréquent. Elles vont expliquer les absences de l'autre, elles vont rationaliser ces contradictions, elles vont minimiser leur propre malaise. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle, la cinquième chose, ce que j'appelle l'élastique émotionnel. Donc là, c'est quand même le mécanisme central dans les logiques d'emprise. Hein. C'est les moments d'intensité, de proximité verbale, de grande chaleur, et après le silence, le retrait, la distance. Et alors la vraie problématique de cette alternance, c'est que ça crée une dépendance affective spécifique, parce que les victimes attendent le retour du lien tel qu'il était au début.
Sixième.
Eh ben, les gens doutent clairement de leur propre jugement, et ça, c'est les effets du gaslighting. Et septième, c'est que progressivement, les gens tout seuls vont s'isoler parce qu'ils n'aiment pas, comme disait Sandra, le discours des autres, et que ça vient interférer avec ce qu'ils ont envie d'entendre.
Et il y a aussi un sentiment qui arrive assez vite, qui est la honte. Parce qu'il y a quelque chose qui... On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, et on n'est pas et on n'arrive pas à s'en sortir, et on a honte. Et ça, c'est important de dire ça. Et je pense que vraiment, la honte, c'est quelque chose qui empêche aussi de parler, par exemple, et de se confier.
Lisiane Larbani, vos victimes tentent de se reconstruire, et pour vous, il y a plusieurs pistes pour se reconstruire, pour vous il va falloir changer son rapport à l'amour.
Changer son rapport à l'amour, c'est la base, je pense, comprendre que ce qu'on a appris de l'amour dans les comédies romantiques ou dans les livres, c'est pas toujours très égalitaire en termes de rapport de domination, et aussi je pense que la clé, c'est aussi la sororité. S'allier entre femmes, se croire, se parler et se comprendre, c'est une clé aussi.
Sandra Colombo.
Et moi, ma psy, une de mes psys, quand j'allais très très mal après Raphaël, enfin pendant cette relation chaotique, j'arrivais, je lui disais, oh, je l'aime tellement, je l'aime tellement. Et elle me dit, un jour, elle me dit cette phrase, vous savez Sandra, l'amour, ça n'est pas pleurer tous les jours. Et j'ai trouvé ça merveilleux, ça m'a ouvert les yeux, et je me suis dit, c'est vrai, on se fait croire que être amoureux, c'est être dans des roller coasters, dans des montagnes russes d'émotions, trop pas assez. En fait, l'amour, c'est doux, simple, tranquille, et c'est peut-être moins vivant que ce qu'on pense. Voilà, c'est peut-être moins chaotique.
Et on lira dans le livre de Lisa Larbani, comment c'est fini votre, comment c'est terminé votre histoire avec Raphaël. Merci beaucoup Cécilia Como d'être venue. Merci Sandra Colombo et merci Lisa Larbani. Je recommande vraiment la lecture des imposteurs de l'amour, déjouer la manipulation sur les applis de rencontre. C'est publié chez Jean-Claude Lattès dans la collection Nouveau Jour. Grand bien vous fasse à podcaster, à partager sur l'appli Radio France demain. Dans Grand bien vous fasse Weekend, on s'intéresse à tous ces personnages de cinéma auxquels on s'identifie et qui peuvent nous aider dans la vie.